Champ Libre, le podcast. L'art et la culture loin des villes, au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine.
Aujourd'hui, en compagnie de Sonia Moumen, rencontre avec Christophe Doucet. Un podcast écrit et réalisé par Léna Dubreuil.
Bon, moi je bosse, hein, je m'occupe pas de vous. Hein. Je suis comme si vous n'étiez pas là. Hein.
C'est depuis Talley, dans les Landes, que Christophe Doucet imagine ses sculptures monumentales. Un artiste profondément enraciné qui expose un peu partout dans les grandes institutions et galeries, en France et à l'étranger. Fasciné par le monde animal, c'est avec un imaginaire débordant qu'il parle de ses œuvres et de son histoire. Rencontre avec Christophe Doucet, celui qui travaille et raconte le bois.
Je m'appelle Christophe Doucet, je suis sculpteur à Talley, dans les Landes. Alors ici, nous sommes dans mon atelier, une ancienne distillerie de résine. C'est un endroit où on, jusqu'au début du siècle, non, au début du siècle dernier maintenant, on distillait la résine. C'est-à-dire on allait chercher la résine dans les pins, on les ramenait ici, et la résine était chauffée, distillée, et en extraire l'essence térébenthine et la colophane. Voilà, et ça servait à faire des peintures, à faire la colophane, ça servait à, pour les cordes de violon, à passer sur les cordes de violon pour faire ces distilleries. Il y en avait à peu près une par village, hein. Voilà, avant l'industrie des produits pétroliers. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de l'acquérir. Il y a déjà 20 ans, c'est un atelier de sculpture. Bon, l'avantage, c'est qu'à l'époque, on trouvait dans les Landes des maisons et des ateliers pour rien. Tout le monde quittait les... Enfin, c'était un pays de fous ici, personne ne voulait habiter. Yaris. Ah oui, l'autre là, celle-là, on avait dit, elle est bien, le lièvre là. C'est vrai, je l'aime bien. J'aime bien développer aussi dans ma sculpture des principes. C'est-à-dire il y a le principe du lièvre, de la mandore, ça c'est le principe de l'échelle d'Ogon. Je mets en place des principes que après je peux reproduire. C'est un chêne. J'avais fait une référence aux échelles d'Ogon dont on se sert pour monter dans les greniers. Celle-ci, elle se retrouve ici parce qu'au début je voulais la faire tenir sur ses deux pieds. Je voyais que ça ne tenait pas. Et puis, un jour je me suis dit mais c'est bête, il n'y a qu'à la poser sur un arbre. Et puis je l'ai posée, ça marchait, et puis depuis elle est là, et ça fonctionne vachement bien. Et il y a même eu plusieurs tempêtes, elle a tenu. C'est ça qui est bien. Donc elle a sa place. Ah, il y a même du lierre, on voit le lierre qui pousse dessus. Par endroit. Et là, ça, on dirait que c'est la queue, mais en fait, c'est une branche. C'est la queue du lièvre. Je crois que j'ai subi mes études jusqu'à aller en prépa aux Beaux-Arts à Bayonne, où j'ai rencontré un prof qui s'appelle Alain Guédon, qui m'a dit « mais tu devrais tenter le concours des Beaux-Arts, ce serait bien pour toi ». J'avais une appétence à dessiner. Bon, mon père dessine beaucoup, ma mère était... Enfin, mes parents, il y avait une appétence quand même au dessin. Mais j'avoue que j'ai subi mes études jusqu'en terminale, je ne savais pas trop. Oui, c'était lycée agricole parce qu'elle me plaisait, mais ce n'était pas vraiment non plus... J'aurais pu faire autre chose, quoi, je veux dire. C'est pas ça, c'est plutôt l'arrivée aux Beaux-Arts, ça dit « ah mais oui, mais c'est ça, mais c'est génial, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait me payer pour faire des bêtises, j'étais vachement content, en fait. » Quand j'ai fait les Beaux-Arts, c'était dans les années 81, c'était la mode de l'art conceptuel, les grandes heures de Jean-Louis Froment, des Anthropolinés, qui était avant le CAPC. C'est devenu un CAPC musée au moment où j'étais à l'école, donc j'ai vu les plus grands noms de l'art minimal qui sont venus exposer à Bordeaux, donc j'étais bercé par ça. Et la sculpture n'était pas trop à la mode quand même. Le seul qui faisait un peu de sculpture, c'était Bernard Pagès ou Tony Grand. C'était pas trop la mode. La sculpture n'a jamais été trop à la mode jusqu'à récemment finalement. C'est redevenu à l'école dans la sculpture en école d'art maintenant, depuis peu. Mais moi, je crois que j'étais attiré par la sculpture, surtout... dans son dimension volume, quoi. C'était le volume qui m'intéresse. Je ne suis pas peintre, je dessine un peu, mais moi j'aime bien le rapport au corps, quoi, la dimension. C'est-à-dire quand on est sur un énorme bout de bois, bon, on a une sorte d'émotion physique. on sent la puissance du matériau, c'est ça qui me plaît, c'est ce que j'essaye de sentir et de donner à voir, ou donner à sentir. Je redonne à sentir. Je crois qu'en tout art, il y a un rapport à l'intellect, c'est-à-dire on fait quelque chose parce qu'on a pensé un projet, un truc comme ça. Mais la sculpture en particulier, il y a un rapport au corps qui me semble évident et très important. C'est-à-dire que quand on est devant une grande sculpture, d'abord, ok, elle a un sens, elle signifie quelque chose, mais aussi on a une impression kinesthésiste, c'est-à-dire qu'on est devant un volume réellement qui vous parle, entre guillemets. Et ça se passe vraiment physiquement quand on est devant. Ça m'a fait ça en Égypte. Quand on va en Égypte, on voit ces énormes sculptures. Et le guide vous dit, ça fait 300 tonnes, des trucs. Vous dites, c'est 40 tonnes. Enfin, c'est des trucs et puis des formes énormes. Et on se dit, waouh. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. On est ému par ces formes. Et la sculpture, c'est ça. C'est autant un travail sur la forme, un travail sur les formes, enfin je veux dire rétinienne, c'est quelque chose qu'on peut dessiner, mais autant aussi sur la puissance kinesthésiste, c'est quelque chose qui parle au corps. C'est autre chose que la dimension visuelle, c'est une dimension physique. Et cet atelier est bien, parce que j'ai pu trouver l'espace où je peux mettre en œuvre tout ça. C'est-à-dire la sculpture, ça demande, ben oui, ça demande un camion, des grues, enfin pas des grues forcément, mais un matériel de levage. Je veux dire, le morceau sur lequel je suis assis, mine de rien, il doit faire 300 kilos. Bon, 300 kilos, j'arrive pas à le soulever, moi. Là, le balai. Ça, je le dis souvent, si j'étais prof aux Beaux-Arts, je donnerais une UV à tout étudiant qui passerait un permis poids lourd. Parce que je trouve ça extraordinaire d'avoir cette capacité de levage, c'est important. Bon, après, on n'est pas obligé de l'avoir, on peut travailler avec des artisans, des techniciens dont c'est le métier. Mais je crois que cette dimension est importante, du poids vraiment que ça fait, de l'émotion qu'on a devant. Je sais bien qu'en ce moment, mon discours peut paraître très macho, peut-être pas politiquement correct que je dis ça, mais cette puissance, elle est importante. Elle va peut-être à l'encontre de tout le discours dominant, c'est vrai. Alors, il me faut le casque anti-bruit. Alors, un truc, pas qu'il y ait de pointe, alors attends, il y a de pointe. T'as le marteau, Eric ? Le gros marteau. Je travaille le bois par facilité, je le dis souvent. J'habiterai dans les Pyrénées, je travaillerai le marbre ou la pierre, ou si dans les Landes, finalement, ayant à ma disposition du bois, je travaille avec le bois. J'aimerais beaucoup travailler d'autres matériaux, mais le bois, c'est... Voilà, il y a du bois ici, donc je travaille avec du bois. Je serais dans un pays d'argile, de céramique, je travaillerais avec de la terre. C'est aussi simple que cela. Natacha Sansos m'a appelé parce que son ami était lagueur et avait coupé cet énorme platane chez quelqu'un parce que c'était devant sa maison où il y avait une route qui passait, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je suis allé chercher cet arbre. Déjà, je l'ai coupé à la dimension du camion. Il fallait qu'il puisse rentrer dans mon camion. Puis il a fallu le ramener, c'est encore une autre histoire. Et ensuite, je le redresse, comme on voit là, et c'est vrai que j'attends souvent, des fois un an. Ou alors, souvent, c'est ce qui se passe. J'ai un projet, un ami m'appelle, ou un commissaire d'expo, ou enfin, bon, quelqu'un qui organise une expo me dit « Christophe, je voudrais que tu fasses un truc sur ce sujet et tout ». Et justement, j'ai deux ou trois bois, comme ça, qui sont là, et avec lesquels, tiens, ben, mon idée pourrait coller à ce projet et faire ce... Donc là, bon, voilà, il y a une sorte de demande, comme par exemple quand j'ai fait le 1%, de Bayonne, c'est une immense banque d'accueil. Ben là, j'avais un bois, un ami qui avait ce chêne, j'ai eu ce projet que j'ai gagné, donc ça, les deux trucs se sont réunis, j'ai pu faire ce bois. Mais souvent, il y a des bois là, qui sont là, et puis un jour, je fais des petites maquettes, je travaille avec des petits morceaux de bois, je les façonne, à la scie à ruban souvent, et puis je vois un morceau qui correspond, on dit « Ah là, celui-là pourrait coller », et puis et hop, et je sors mon truc. C'est très difficile à dire comment ça se fait. Mais souvent, j'ai besoin de laisser reposer les choses. C'est-à-dire, je fais ma sculpture, bon, puis la laisse reposer dans un coin de l'atelier, puis après, souvent, des fois, un an, deux ans, j'aime bien les oublier, puis après, je les revois, puis je me dis « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Mais j'en reviens pas de ce que j'ai fait moi-même. Il faut aller vite, il faut travailler très vite, parce que c'est puissant comme ça, sinon c'est trop et empoulé et tout. Mais en même temps, je veux dire, quand c'est fait, c'est fait. Ça fait très macho les tronçonneuses, je trouve, j'ai honte. La première chose, c'est souvent, oui, je les attaque à la hache et à la tronçonneuse. Mais pas toujours. Ça va dépendre beaucoup des infractuosités du bois, de ce qu'il a, de ce qu'il recèle, de l'idée que j'en ai derrière. Mais oui, forcément, au début, ça commence avec la tronçonneuse. Ça commence déjà que le bûcheron l'a fait tomber avant moi aussi, forcément. Ou la tempête. Souvent, c'est la tempête. C'est pas toujours le bûcheron, c'est la tempête des fois. Donc des fois, il y a des arbres qui, par le vent, étaient complètement arrachés. C'est intéressant parce qu'on voit les grosses fibres qui se... C'est assez rare, mais après la tempête, j'avais trouvé des morceaux comme ça. C'était assez impressionnant. Il y avait des énormes troncs de 1 mètre de diamètre qui étaient éclatés sur 10 mètres de long. C'était des trucs... C'était magnifique. Et j'ai pas pu en garder beaucoup de ça parce que c'est vite pourri. C'est pas vite, mais ça, c'est amusant comme process. Et un outil que j'affectionne particulièrement, c'est la hache. Parce que la hache, c'est un outil coupant et qui quand même respecte, qui coupe pas, mais pas suffisamment. Parce que la tronçonneuse, on coupe, mais je veux dire, quelle que soit la fibre du bois, ça coupe. Bon, voilà. Tandis que la hache coupe relativement facilement si elle est bien affûtée. Mais dès qu'il y a une infractuosité, une nodosité, enfin un nœud, quelque chose comme ça, hop, ça répond différemment. Et du coup, avec la hache, on arrive à faire naître des formes et une surface que je trouve très intéressante, parce qu'elle respecte cette vivacité du bois. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup comme outil la hache, l'herminette, enfin tous ces outils de jet, enfin très coupants. Je collectionne aussi les haches, à vrai dire. Voilà. Bon, je ne sais pas si je continue ou si j'arrête là. Continue ? On arrête ? On voit, vous voyez trois animaux ou vous ne les voyez pas? On commence à les voir. Hein. Une sorte de vache, là. Ouais. Là, je n'ai pas encore. Mais en fait, les cornes vont être uniques. Vont se relier à chaque fois. Celle-là, ça va être la corne de celle-là et de celle-là. Et celle-là, elle va avoir deux cornes, tac, tac, et qui vont être... Et celle-là va être commune. Mais après, bon, ça, c'est une ébauche. Après, ça va... C'est l'idée, quoi. Mais après, c'est là où je laisse reposer pour voir la bête qui naît. Il y a l'idée. Bon, mais là, j'ai vu qu'il y a une vache, c'est sûr, ou une sorte de... Mais là, je ne sais pas trop encore ce que ça va être. Je vais voir. Peut-être un cheval, tiens. Comme il y a un long nez. Souvent, quand je travaille, je me sers de ces nœuds. Vous voyez, ce nœud, c'est comme s'il y avait la naissance d'un museau ou de quelque chose. Comme si l'animal existait déjà dans le bois. Comme la forme était déjà présente dans le matériau. C'est curieux, mais ça me dépasse un peu, j'aimerais dire. Ça. Et je travaille peut-être pour découvrir ça. Certains artistes se sont remontés contre ça. Mais moi, je dis qu'on est dans une espèce d'état de transe quand on travaille. Il y a des essences nobles qu'on appelle nobles et des essences qui sont plus difficiles. Les essences nobles pour une grosse sculpture, si on veut faire une sculpture qui dure dans le temps, on est obligé de choisir un peu ses essences. Mais ça, c'est l'histoire de l'art qui nous l'apprend. Je veux dire, l'Arche d'Alliance était en cèdre, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que c'est un bois qui est réputé imputrescible, qui est facile à travailler. Moi-même, j'ai fait des trucs avec des bois très... J'ai fait des sculptures avec du noisetier, des choses comme ça. Ben, au bout d'un an, deux ans, c'est il n'y a plus rien, c'est de la poussière. Donc on apprend, des fois on en a marre de refaire les mêmes choses. Donc... Et puis après, il y a des bois qui sont faits pour certaines utilisations et d'autres pour d'autres. Et je veux dire, mais ça, c'est une évidence que connaissent tous les artisans du bois. Bon, après, on l'apprend des fois à ses dépens. Mais... Puis il y a des bois faciles à travailler, suivant ce qu'on fait. Le platane sur lequel je suis assis, c'est un bois très dur quand on le coupe, mais en séchant, il devient très mou, très léger. Et il ne tient pas dans le temps si on le laisse à l'extérieur. C'est un bois qui devient très léger. Si léger qu'autrefois, on en faisait des jambes de bois. Après la guerre 14-18, toutes les jambes de bois étaient faites en platane. Donc c'est un bois vraiment très léger, mais qui tient pas dans le temps. Même si on le prend en voiture, ça fait mal. Quand il est vert, quand il est sec, c'est plus rien. C'est très curieux. Après, on a des gros volumes dans le platane, donc c'est intéressant. Donc on peut travailler à l'intérieur. Normalement, dans le bois, il y a souvent il y a 3 ou 4 cm de biais qui, normalement, il faudrait enlever théoriquement avant de travailler le bois, parce que c'est que le cœur qui reste, en fait. Parce que le cœur, c'est le bois de soutien, c'est le bois qui est dur, tandis que l'aubier, c'est le bois vivant, donc c'est là où tous les insectes se réfugient, en fait, dans ce bois, et les champignons et autres. Le pin est un très beau bois pour faire des planches ou de la charpente. Mais j'ai beaucoup de mal à faire des sculptures en pin. Il y a des résineux qui se prêtent bien à la sculpture, c'est le cèdre. C'est un bois magnifique. Le séquoia, on peut le considérer comme un résineux, je pense. Mais le pin, non. Le pin, je fais des cabanes, si, avec le pin. Je fais des sculptures cabanes. C'est très bien, parce qu'on fait des planches, on les scie en long, on peut les clouer facilement. C'est assez nerveux comme bois, enfin, c'est assez solide. Donc c'est très bien. Mais pour faire de la ronde bosse, enfin la ronde bosse, c'est la sculpture au marteau, à la gouge, à l'âche, c'est plus difficile. Peut-être qu'un jour, peut-être que je n'ai pas trouvé le morceau qu'il fallait aussi. C'est parce que peut-être que les pins, on les coupe relativement jeunes. Et moi, je travaille avec des bois qui ont 100, 200 ans. Et c'est maintenant rare de trouver des pins de 200 ans. On en trouve, hein, mais c'est plus rare. Dans mon jardin, j'ai une collection de chênes exotiques. J'essaie d'avoir des chênes un peu partout. Ça, c'est un feuille de chêne à feuilles de châtaignier, chêne à feuilles d'olivier, et qui viennent tous d'endroits différents. Il y a un copain qui me disait, mais ça, c'est du chêne vert. Mais non, c'est pas du chêne vert, c'est un chêne vraiment à feuilles d'olivier. On n'a jamais vu des chênes comme ça. Et ça fait des glands, donc c'est vraiment des chênes. J'adore ça. Ça fait partie de... Comme j'en coupe, il faut bien que j'en plante. Mais j'avoue que quand je travaille, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours ce rapport à l'homme, à l'animal, et au végétal qui est compris dans le matériau. C'est ces trois règnes qui s'intermêlent. Et on pourrait parler du règne minéral aussi, avec mes pigments que je rajoute par-dessus. C'est un mélange des règnes, comme ça. Un mélange, une sorte d'imbrication. Dernièrement, je suis allé au Bénin, où j'assistais à des cérémonies vaudou. Et puis, bon, je suis un grand collectionneur, modestement, mais j'adore collectionner des masques africains. Et je voulais aller voir, vraiment. Donc, je suis allé voir des sculpteurs, là-bas, voir comment ils travaillent. Donc là, j'ai vu la même proximité de travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des outils, ils tapent dessus, bon, très bien. Mais après, ce qui m'a énormément surpris, c'est que j'ai assisté à des cérémonies vaudou où il y avait des temples vaudou dans une demi-obscurité, où il y avait des têtes comme ça, sculptées, qui étaient à la fois d'animaux et d'humains, qui étaient recouverts de sang et tout. Il y avait quelque chose de magique. Il y avait une pensée magique dans ces sculptures. Et, Et je crois que dans ma sculpture, j'essaye de renouer avec cette pensée magique. Je ne peux pas l'expliquer. Quand vous me dites pourquoi je fais des animaux, pourquoi, j'en sais rien, à vrai dire. C'est pour faire ressurgir cette pensée magique qui est là, qui nous environne. Je crois que c'est ça. Mais si j'avais répondu à la question, je partirais en vacances. J'arrêterais de travailler. Donc, c'est bien que je ne trouve pas de réponse à cette question. Et alors maintenant, les masques, c'est encore un travail différent. C'est toujours peut-être parce que, à cause de mon amour des masques africains et Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afrique et Inuit aussi, tout le Amérique du Nord. J'aime beaucoup aller voir ces masques au Quai Branly, enfin dans tous les musées d'anthropologie. J'en ai collectionné, j'ai essayé d'en faire. Et au début, c'était monstrueux, enfin, c'était pas beau. Et petit à petit, j'arrivais à avoir une certaine finesse, dans le travail, et je suis arrivé à quelque chose qui est mieux qu'avant, quoi. Et c'est intéressant, un masque, parce qu'on peut le mettre sur le visage, donc on peut se recouvrir le visage, ce qui me plaît beaucoup. C'est comme si on rentrait dans le bois, du coup. Quand je mets un masque, je suis un homme, et je me recouvre d'un animal, donc je deviens animal, et ce masque est en bois, donc je deviens aussi végétal. Et c'est comme si je re-rentrais dans les règnes. C'est-à-dire qu'on parle des règnes avec l'homme qui serait au-dessus, mais c'est comme si je faisais comme une taupe qui fait un trou dans la pyramide des règnes pour rentrer à l'intérieur. Et du coup, c'est une façon, peut-être, le masque de repénétrer à l'intérieur du règne animal. Vous ne marrez pas. Je mets de la couleur aussi des fois. Et la couleur m'aide à sortir les formes. Alors soit je fais au crayon pour faire venir la forme, soit je fais la peinture. Je mets, j'enlève. Il faut aller vite, quoi. Donc je travaille vite, mais je me repose beaucoup. C'est ma belle chouchotte, ça. Je suis assis au pied de la... Je l'appelle la chevreuil à la mandorle. La mandorle étant cette forme d'amande qui est représentée souvent sur les tympans des églises, où à l'intérieur, il y a une vierge ou un Christ resplendissant. Et moi, j'ai mis mon chevreuil à l'intérieur. Et c'est la forme qu'il y a dans la salle des taureaux à Lascaux, où il y a tous les taureaux qui vont vers cette forme de mandorle qui est dans un coin de la salle des taureaux à Lascaux. Et cette forme qui est représentée partout, dans énormément de représentations religieuses. Et le chevreuil qui sort de là, comme s'il naissait, hop, il venait nous chercher. Et en fait, ce que j'ai jamais dit, c'est qu'il y a 35 ans maintenant, j'ai assisté à la naissance de ma fille et j'étais extrêmement impressionné par ce petit corps qui est sorti de sa maman. Et à l'époque, on voulait que les papas assistent à la naissance. Bon, j'y suis allé, mais et ça m'a énormément marqué. C'est un peu ça aussi. C'est cette naissance, en fait. En fait, les sculptures, mais comme tout, hein, à un moment donné, ils trouvent leur place. Et une fois qu'ils ont trouvé leur place, on les laisse. Ça veut dire qu'ils sont là où il faut. Mais des fois, ils mettent du temps, hein. On les déplace, ça va pas, on les remet là, gna. Et à un moment donné, ça colle, ça match. Et l'idéal, c'est quand les petits oiseaux, ils font leur nid dessus. Alors là, c'est encore mieux. Ça veut dire que même les oiseaux ont compris. C'est bien. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts à Bordeaux. Et après les études, la question s'est posée, comme tous mes collègues, ils allaient en ville, quoi. Il fallait aller à Paris, c'était le truc à faire. Et moi, j'ai pas eu envie. Ça m'ennuyait de vouloir aller à Paris. Enfin, je sais pas pourquoi, à vrai dire. Parce que, bon, la ville en soi m'a trié. Mais j'ai toujours vécu à la campagne. Avant les Beaux-Arts, j'ai fait un lycée agricole. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la campagne fort. Et donc m'installer en ville sous prétexte de faire une carrière artistique, j'avoue que ça ne m'intéressait pas. Malgré ce qu'on me conseillait, c'est-à-dire mes profs disaient « ouais, il faut que tu ailles à Paris, ça va marcher ». J'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. C'est-à-dire que c'est une... On peut pas l'expliquer. On a des envies et des fois on en a pas. Enfin, donc c'était plus vraiment une envie de rester ici, de rester dans les Landes. Après coup, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être parce que c'est chez moi. Voilà. Quand j'étais petit, je voulais être cosmonaute. Bon, alors maintenant je suis sculpteur. Donc il y a peut-être une relation, mais je ne la connais pas. Comme j'étais pas assez bon en études, j'ai pas pu être cosmonaute, mais je voulais quand même aller dans les étoiles. Donc il y avait un rapport comme ça à l'au-delà, une sorte. Je pense que maintenant, après coup, je rattache cette envie d'être cosmonaute à l'au-delà, cette envie de peut-être cette vision du ciel, cette vision de cette vision de l'immensité. Je pense que l'art, c'est un moyen d'y accéder, peut-être pas par la fusée, mais par les sens.
C'était Christophe Doucet au micro de Champs Libres, un épisode écrit et réalisé par Léna Dubreuil. Entretien et présentation, Sonia Moumen. Prise de son, Jean-Baptiste Béis.
Champs Libres, l'art et la culture loin des villes, au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Merci pour votre écoute et à bientôt sur champslibres.media.